Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Que nous tournions deux pages dans notre Bible. La première page, nous allons la prendre dans le prophète Jérémie, chapitre 8. Chapitre 8 et verset 18. Alors, c'est un sujet particulier qui est susceptible de nous interpeller dans notre vie chrétienne, dans notre engagement et dans notre service. Alors voilà ce que nous rapporte ce fameux livre de Jérémie, verset 18. « Je voudrais soulager ma douleur, mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion ou en Israël ? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leur image taillée, par des idoles étrangères? La moisson est passée et l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne se perd-elle pas? » Une deuxième lecture, mais nous reviendrons sur Jérémie. Alors un autre texte, dans Zacharie, chapitre 12, verset 10. Peut-être le remède et la réponse. Certainement. Le remède et la réponse. C'est Dieu qui parle. Zacharie 12, 10. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Il y a des échos dans toute la Bible, des retentissements de prophètes, d'hommes de foi, comme par exemple, nous le connaissons ce verset, « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche, nous dit la Bible, pour intercéder en faveur du pays. » Vous avez un autre qui apparaîtra plus tard, c'est l'apôtre Paul, ce géant de la foi qui pour le peuple d'Israël, pour sa nation, pour le monde entier, dira ces choses « L'amour de Christ me presse ». Peut-être avons-nous besoin de prendre conscience que dans les temps dans lesquels nous sommes, la vocation de l'Église, c'est encore de prier, non pas d'une manière formelle, parce qu'il faut prier, mais de prier étreint par l'amour de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. Il semblerait que dans ce temps de relativisme, où aujourd'hui il y a très peu de choses qui ont vraiment une importance, sinon l'argent, sinon la réussite personnelle, sinon les ambitions humaines, mais je crois que l'Église a besoin de se resituer dans sa mission et dans sa position. C'est celle d'un retour en conscience que nous avons une mission à accomplir. Et cette mission, elle ne se fera pas dans la désinvolture, dans l'indifférence. Ou en disant, si c'est pas nous qui le ferons, d'autres le feront à notre place. On est un peu dans ce contexte aujourd'hui. Mais quand on entend Paul qui nous dit « l'amour de Christ me presse », en sachant qu'il ajoutera que nuit et jour, il ne cesse de prier pour les églises, dont il était le pionnier, le fondateur, ça veut dire ce que ça veut dire. Et moi, je voudrais penser aussi aux générations qui viennent, les générations de nos enfants, de nos petits-enfants, qui n'ont peut-être pas connu le réveil, qui n'ont peut-être pas connu ce que nous avons connu, mais qui demain vont être, en quelque sorte, eh bien, les ambassadeurs du royaume de Dieu. Et s'ils sont nivelés comme le monde nivelle toute chose, que restera-t-il d'une conscience de service ou de quelque chose qui brûle au fond des cœurs, hein? Comme ces disciples d'Emmaüs qui disaient « Mais lorsqu'il nous parlait, notre cœur ne brûlait-il pas ?» Et si nous entretenons encore un certain feu lorsque nous nous retrouvons dans nos réunions de prière, réunions d'évangélisation et en particulier dans nos cœurs, lorsque nous faisons dans... Si notre culte est un culte formel où nous rentrons et nous sortons comme nous sommes venus, alors que restera-t-il? Que le Seigneur nous donne de comprendre cette deuxième partie quand il nous est dit, mais quelque part, j'enverrai sur eux un esprit de prière et de supplication. Et c'est ça ce que nous avons besoin. Que Dieu nous donne sa grâce d'être renouvelés dans cette conscience, dans cette responsabilité qui est la nôtre. Alors c'est l'histoire d'un prophète. Ce prophète, nous le connaissons. Il s'appelle Jérémie. On connaît ses lamentations, mais c'est pas pour rien qu'on a appelé son deuxième livre les Lamentations de Jérémie. Et ce livre, cette histoire évoque le chagrin de voir sa nation, de voir son peuple, le peuple d'Israël, la nation élue, s'éloigner de Dieu et de se perdre. Voilà. Alors, peut-être que on n'est pas toujours conscient des choses, mais s'il y a un homme qui avait cette acuité spirituelle, c'était bien Jérémie. Et il pouvait toujours peut-être penser que il y aura d'autres prophètes. Et puis finalement, eh bien là, il fait son boulot, il fait son travail de prophète, de parler, et puis il y en aura d'autres qui feront autrement, qui feront autant. Non. Jérémie est un homme comme si c'était là, comme si c'était le dernier jour pour lui. Comme si c'était finalement, eh bien, là, la catastrophe qui allait fondre le soir même sur la nation et qu'il fallait absolument parler de la part de Dieu. Alors, il voit le peuple se perdre dans toutes sortes de choses. Il en est témoin d'une manière ou d'une autre. Et il s'aperçoit que déjà, il y a les prémices de toutes ces choses qui sont catastrophiques qui arrivent. Des maux, des maladies, des afflictions, du désespoir. Eh oui, il le dit. Je voudrais soulager ma douleur. Qu'est-ce que je peux faire? Prendre des barbituriques, ça n'existait pas à l'époque. Enfin, peut-être, mais toujours est-il que pour oublier finalement ce que je vois, ce que mes yeux voient, ce que mes oreilles entendent, et il dira, mais mon cœur souffre. Ah oui, un homme qui était entier. Un homme dont finalement la vie était totalement et complètement acquise pour Dieu. Vous savez pourquoi il souffrait, Jérémie? C'est très simple. C'est parce qu'il souffrait. Et parce qu'il souffrait, parce qu'il aimait beaucoup. Et quand on aime beaucoup, on souffre beaucoup. Vous savez, vous qui avez des enfants, c'est parce qu'on aime nos enfants qu'on souffre. Autrement, ben, on va pas souffrir pour les enfants des autres. On peut s'apitoyer un instant. Parce qu'il est arrivé un accident, parce qu'il est arrivé ceci. On compatit. Mais quand ce sont nos enfants, on est drôlement interpellés, hein. On ne vit plus à ce moment-là. Compte tenu peut-être de la gravité de ce qui leur arrive. Alors Jérémie, comme nous-mêmes, comme l'Église en général, comme chacun d'entre nous, Jérémie se fait l'écho des sentiments de Dieu. Si je ne ressens plus rien, c'est que je suis mort. Mais il n'était pas mort, il était vivant dans l'esprit, Jérémie. Par son esprit, par l'esprit de Dieu qui était en lui. Et il ne peut pas faire autrement que de parler. Et ce sont des sentiments qu'il éprouve, des sentiments douloureux, dont la raison principale, alors excusez-moi, mais je vais quand même le dire, hein, c'est le péché, c'est la désobéissance, c'est l'attitude effrontée d'Israël, désinvolte, désintéressée. Alors à ce moment-là, Jérémie pleure, parce qu'il s'aperçoit que Dieu pleure aussi. Ah tiens, à propos, il nous est dit dans... le psaume 2, que Dieu rit. il se rit. Mais dans d'autres passages, il nous est dit que Dieu pleure. Souvenez-vous de Jésus qui a pleuré deux fois. Oh, il a pleuré plus d'une fois, mais enfin, en tous les cas, ça nous est rapporté. Il a pleuré deux fois sur son ami Lazare, parce que la mort avait frappé son ami. Et il voyait, et il pleurait pour son ami qui avait disparu, mais il pleurait des conséquences du péché d'origine qui amenait la mort sur l'humanité. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Et il a pleuré une deuxième fois, non pas sur un individu, mais il a pleuré sur une ville, la ville de Jérusalem. Des millions de gens, des milliers, des milliards de gens savent ce que c'est de pleurer. Chacun d'entre vous, peut-être, vous pourriez me raconter votre histoire. Cette semaine, j'ai pleuré. J'étais inconsolable. Cette semaine, en pensant à ceci ou en étant frappé par cela, eh bien, je me suis effondré en pleurs. Vendredi dernier, il y avait beaucoup de gens dans le monde qui pleuraient aussi, hein, inattendus. Ouais. Et on n'a pas fini de pleurer, mes frères et sœurs. Je ne veux pas être un prophète de malheur, mais peut-être pas pour nous personnellement, mais de voir ce qui se passe. Les dévastations, les tsunamis qui viennent sur notre monde. On pourra toujours, on y arrivera. Ah ben c'est sûr qu'on pourra toujours arriver. Mais il va y avoir de la casse en attendant. Hein. Et il y aura toujours de la casse. Alors, pour nous dire que les hommes, c'est vrai, peut-être rient-ils d'une manière tellement inconsidérée pour oublier les pleurs. Je veux bien croire. Ça, c'est possible. Les raisons des armes des hommes, eh bien, sont diverses, autant que les situations catastrophiques sont variées. Et les uns pleurent pour une chose et d'autres pleurent pour autre chose, naturellement. La souffrance, l'accident, inattendu, la peur, les autres, l'amour fait souffrir, l'amour fait pleurer, la haine, l'injustice, la méchanceté, la sottise aussi. On a quand même des spectacles de sottise autour de nous, quand même, excusez-moi. L'erreur, tout ça, ça fait verser des larmes. Un jour, Jésus nous en parle et il nous raconte la plus belle histoire, on l'a appelée la perle des paraboles, figurez-vous. L'histoire, figurez-vous, d'un homme, d'un père qui voit son fils se perdre. Un fils qui n'est pas conscient des dangers. Un fils qui est irresponsable parce que il est malheureux d'être heureux. Ça peut-être évoquer certaines choses. Hein. Je suis malheureux d'être heureux. Eh bien, quand tu connaîtras le malheur, tu sauras ce que c'est que le bonheur. Hein. Quand tu l'auras perdu, le bonheur, c'est là où on s'aperçoit des choses. Et voilà, dans cette petite histoire, eh bien, quelque part, c'est l'histoire de Dieu qui pleure sur les hommes. Le fils prodigue, le père et le fils prodigue, c'est vraiment, d'une manière tellement belle, touchante, simple, accessible à la compréhension de tous, c'est l'histoire de Dieu, créateur, qui pleure sur la créature. Sur son peuple, pour chacun peut-être d'entre nous. Et ce garçon, dans un coup de folie, avec un souffle d'aventure, eh bien, va quitter la maison familiale pour aller, peut-être je peux dire le mot, perdre sa vie. Il ne sait pas qu'il va la perdre parce qu'il pense qu'il va gagner quelque chose. Alors il va perdre sa vie, tout simplement, dans toutes sortes de folies. Tout ce qui se présente à lui, eh bien, c'est bon à prendre. Jusqu'au jour où il va se retrouver dans une position catastrophique. Et là, il va se souvenir, chez mon père, il y avait. Oui. Peut-être que nous devons nous en souvenir aussi. Hein. Profitons encore des temps de paix qui nous sont donnés, mes frères et sœurs. Vous allez me dire, il fait une déprime ce matin, là. Hein. Une grosse déprime. Hein. Non, j'ai pas le sentiment d'être... Alors, j'ai pas pris de médicaments, je ne suis pas un zombie, je vous vois, j'ai chanté de tout mon cœur tout à l'heure, comme vous l'avez fait. Je voudrais vous assurer, je ne suis pas en déprime. Mais je reviens à ce que je disais. Bénissons le Seigneur pour ce que nous savons. Ce que nous avons. La grâce de Dieu. Ça, c'était quelque chose d'important. Parce que vous savez... Le problème majeur du peuple d'Israël, c'était son insatisfaction, jamais content. Ils avaient des cailles, ils avaient de la manne, ils avaient la protection de Dieu, ils avaient toutes sortes de choses, le miracle tombé du ciel, et ils râlaient encore. Excusez-moi pour le mot, mais c'est un mot français quand même. Jamais content, toujours insatisfait. Ah oui. Il est parti dans toutes ces folie, ce fils, dans toutes ses dérives. Pourtant, ce père abandonné à l'image de Dieu ne perd jamais espoir d'un retour qui est possible. Je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs qui priez pour vos fils et vos filles, enfants et petits-enfants, ayons l'attitude de ce père qui n'a jamais, jamais baissé la garde. Et vous savez ce qu'il faisait ? Moi, je crois que pendant toutes ces années, si ça durait des années, il n'était pas là en s'alamanter, en regardant l'album photo, s'il y en avait à l'époque, de dire « Oh, mon cher fils, il est parti, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure. » Moi, je crois que s'il ne pleurait pas de cette manière humaine, il pleurait devant Dieu. Et ça s'appelle la prière. Ça s'appelle la prière. « J'enverrai sur eux un esprit de prière et de supplication. » C'est ce que nous avons besoin encore aujourd'hui, n'est-ce pas ? Alors, ce père qui a été lâché, qui a été abandonné, mis sur la route, eh bien, il ne perd jamais de l'espoir de revoir finalement son fils. Et dans cette attente, cette longue attente, parce que quelquefois, pour attendre un fils ou une fille qui se convertit, ça peut durer non pas seulement des mois, mais des années, voire même des décennies. Et dans cette attente interminable, eh bien, il va montrer un caractère de sa foi en Dieu, ce père. « Oui, Seigneur, je sais qu'un jour il reviendra. Je sais que tu me le ramèneras. Et il n'est pas en train de s'endurcir. Le jour où il va rentrer à la maison, il va entendre quelque chose, non ? Parce qu'en parallèle de la patience, du support de cette souffrance, Dieu se sert aussi pour préparer le cœur de ce père. Il le remplit de compassion, d'une attente d'amour, pour que celui qui va revenir soit bien accueilli. Soit bien accueilli. Est-ce que c'est pas ça un peu ? Par-delà nos colères, par-delà nos irritations que nous pouvons avoir parce que nos enfants ne marchent pas comme nous avons marché, ou ils ne marchent pas comme nous voulons ? Non. Faut savoir que nos enfants, à partir d'un certain âge, ce sont plus nos enfants. Ce sont des hommes et des femmes, libres de décision. Mais nous avons encore une manette. Finalement, c'est pas de leur dire ce qu'ils ont à faire. Les enfants, oui. Les adolescents, ils sont encore sous notre responsabilité. Mais quand ils arrivent à 20, 30 ans, 40 ans, etc., et que nous sommes encore ces pères et ces mères qui attendons, qui scrutons l'horizon, eh bien, aussi Dieu nous travaille nous-mêmes. Et quel accueil allons-nous leur faire quand ils vont revenir ? Alors, il a été préparé dans la patience, ce père de la parabole, et je crois que finalement, sa vie, si je peux m'exprimer ainsi, a été mouillée de beaucoup de larmes. Comme il nous est dit dans Jérémie, c'est la suite, je le lis ce verset. « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit la mort de la fille de mon peuple. » Ah oui, nos enfants, quand ils sont en dehors, ils sont morts spirituellement. Ouais, mais Dieu est capable de les ressusciter et de les faire revivre. « Je pleurerai jour et nuit, Seigneur. » Vous savez que dans cet exercice, nous avons besoin de beaucoup de délicatesse et beaucoup de perspicacité spirituelle. Parce que nous pouvons renvoyer ceux pour lesquels nous avons prié pendant des années et des années, nous pouvons les renvoyer dans la nature avec simplement un mot, avec peu de choses. Oui, il nous faut être sages et intelligents. Il y a des temps où nous devons parler et des temps où nous devons nous taire. En tous les cas, nous devons toujours parler devant Dieu d'eux. Nous devons parler d'eux devant Dieu. C'est toute une sagesse tout ça. Ça s'apprend. Alors on connaît la suite de ce parabole de Jésus. Du temps de Jérémie, la nation entière d'Israël avait, mais vraiment d'une manière très caractérisée, tourné le dos à son Créateur, à son Sauveur. Ainsi que depuis longtemps, eh bien, elle en avait été prévenue. Elle en avait été prévenue. Quand on lit ces paroles, paroles, pleurs de Dieu, quand il dit « Mais mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait à la place ? Parce que si on laisse Dieu, qui est une source d'eau vive, eh bien on va se tourner vers des seaux percés, vers des crevasses qui sont, enfin des seaux ou des citernes crevassées, et ça ne servira à rien. Combien de vies de chrétiens qui ont quitté le Seigneur ? Et qui aujourd'hui, on voit, il fuit de tous les côtés. Excusez-moi, il fuit de tous les côtés, rien ne réussit. Rien ne marche. Il divorce, il se sépare, il touche à ci, il touche à ça, etc. Comme s'il n'avait jamais été interpellé par le Seigneur. Moi, j'en ai rencontré comme ça. Et ils peuvent rester mes amis, parce que moi je ne veux pas les voir comme mes ennemis parce qu'ils ont quitté l'Église, ou ils ont quitté le Seigneur. Non ! Ça serait une faute. Ça serait une faute. Moi je ne veux pas les voir comme mes ennemis. Mais quand il m'arrive d'en rencontrer quelques-uns, moi je vais vers eux et je leur tends la main. Alors je ne veux pas leur faire un sermon. Je sais le faire. Mais j'essaie de reprendre contact avec Dieu d'une manière qui soit, qui puisse leur permettre de réfléchir. Et quelquefois c'est eux qui me le disent. Ouais, j'ai fait des bêtises dans ma vie, mais des grosses bêtises. Oh, comment revenir? Puis il y en a quelquefois qui reviennent. Oui, il y en a qui reviennent et c'est vraiment un bonheur de voir le fils ou la fille provenir, revenir à la maison. Hein. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, Seigneur, continuez à prier pour ceux que Dieu Seigneur vous a mis à cœur pour qu'ils reviennent. Vous allez me dire, mais il ne reviendra pas parce que je connais tellement bien qu'il ne reviendra pas. Alors, dites donc, alors attendez. Hein. Vous allez me dire, mais c'est mon fils ou ma fille, je le connais. Non, vous ne le connaissez pas. Parce qu'il a changé depuis. Hein. Ah oui. Alors confiez-vous donc dans le Seigneur et pas dans nos appréciations personnelles. Parce que là, on peut se tromper aussi. Hein. Comment peut-on faire pour soulager les chagrins? Ce chagrin dans ce domaine. Une église qui s'en va, comment dire, ce qui c'est pas bien, mais une église qui s'en va en sucette. C'est ce que l'on dit. Hein. Enfin, pour bien d'autres choses. Une église qui commence à dériver, une église qui se vide. Mais comment soulager le chagrin du berger et puis de tous ceux qui restent? Ah oui. Comment apaiser la douleur? C'est bien le problème que nous avons dans ce chapitre 8 de Jérémie. Comment faire? Mais que faut-il faire s'il y a quelque chose à faire? Ouais. Pendant ce temps-là, le monde gémit et il souffre. Voici les cris d'eux, nous dit le texte, retentissant sur la terre lointaine. Ah oui. Je voudrais soulager ma douleur, mon corps souffre de moi. Voici les cris de la fille de Sion. Et ça retentit d'une terre lointaine. Ah oui, le fils prodigue, il était parti loin de son père. Parce qu'on dit toujours loin du cœur, loin des yeux, loin du cœur. Crier, c'est plus que prier. Il y a ceux dans ces cris de la surprise, bonne ou mauvaise. Il y a les cris de la peur. Il y a les cris du bonheur et de la joie. Et il y a les cris du désespoir. Peut-être sont là les cris du désespoir, peut-être ceux-là sont plus sourds parce qu'ils viennent de plus profond. Ouais, et on les reçoit pas toujours de la même manière. Ils ne sont pas toujours perceptibles, mais ce sont peut-être les plus tragiques et les plus douloureux, ces cris sourds du désespoir. Vous savez, je vous apprends rien, mais la vie commence par un cri, elle finit par un soupir. Hein. Pas tout à fait la même chose. Et là, on aime crier, on aime entendre un bébé qui crie, parce que, voilà, il vient à la vie, il rentre dans la vie. Et le soupir d'un moribond, voilà, il s'en va, tout simplement. Les cris de la souffrance, de souffrance, celle indépendante de notre volonté, parce que nous sommes des victimes, des accidents. Et puis, il y a les souffrances qu'on se crée par négligence, parce que nous avons été prévenus, par imprudence, parce qu'on nous a dit de pas aller et de faire, ou par ignorance, comme beaucoup de gens dans notre monde. Dans tous les cas, le cri du malheureux semble s'élever d'une terre lointaine, comme le dit Jérémie. Qui exprime cette pensée exprime bien combien, lorsque l'on souffre, nous nous sentons si loin, si éloignés et tellement isolés. Vraiment, la souffrance est un isolement. Regardez, le fils prodigue s'est retrouvé à garder les pourceaux dans un champ là d'un inconnu. Voilà. On a tous ce sentiment quand on souffre qu'on se sent vraiment seul, voire peut-être même abandonné des hommes et de Dieu. Des hommes, c'est peut-être une réalité, de Dieu jamais. C'est une impression. Isolé de la réponse, de la solution, de la délivrance que nous espérons qu'elle nous sera donnée, qui nous convient. Alors dans la douleur, dans les pleurs, dans les larmes dont nous parlons, puisque c'est Jérémie qui nous fait finalement eh bien, toutes ces choses, qui nous dit toutes ces choses, on se dit, mais l'Éternel n'est-il plus à Sion? N'est-il plus dans ma vie? N'est-il plus dans l'Église? N'est-il plus ici? Ah ça, on y est tous passés par là. Mais Seigneur, tu m'abandonnes. Mais Jésus a prononcé ces mots. Pourquoi m'as-tu abandonné? Naturellement. Et Jérémie le dit lui aussi. N'est-il plus donc au milieu de son peuple? N'a-t-elle plus de roi au milieu d'elle, la fille de Sion? Est-ce que ce Dieu aurait déserté son peuple, son église, ma vie, ma maison? Où est-il, ce Dieu? Que fait Dieu? Et c'est là, peut-être, il faut réviser toutes les leçons de notre vie. Parce que quand Jésus nous dit « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde », c'est que lui n'est pas parti. C'est nous qui sommes partis. Et au lieu de l'accuser, attendez, il faudrait peut-être revoir les choses. Depuis toujours, les gémissements et les sanglots du monde portent avec eux l'interrogation. Les gens sont révoltés dans le monde, je ne parle pas des chrétiens. Mais ils sont révoltés devant tout ce qui se passe. Quelle révolte! Et vous avez remarqué que il y a eu des drames vendredi dernier. Je crois avoir vu subrepticement quelqu'un qui disait « Oui, mais qu'est-ce que Dieu fait dans cette affaire ?» Ah oui, mais je voudrais quand même vous dire que c'est pas Dieu qui est monté dans le camion pour envoyer le camion dans les bouteilles de gaz. Mais jamais on accuse le diable. Au nom du diable, on n'entend jamais ça. Par contre, des noms de Dieu, il y en a. Dans la fureur, dans l'incompréhension, dans la révolte, c'est terrible. C'est terrible. Alors, ça suscite naturellement tout ça des interrogations, et à juste titre, naturellement, et c'est suivi de l'accusation d'être abandonné de Dieu. Mais, après tout, est-ce que nous posons les vraies questions au Seigneur ? Est-ce que nous sommes véritablement dans les bonnes conditions? Est-ce que c'est nous qui avons raison et que Dieu a tort? La misère des vivants que nous sommes trouverait-elle son dénouement dans ce genre d'interpellation que je voudrais déployer devant vous brièvement, que nous adressons non pas avec des mains comme ça, mais avec des mains comme ça devant Dieu? Vous savez ce que c'est ça? C'est un point. Dieu, si tu existes. La prière, c'est tout le contraire. Enfin, moi, je ne prie pas avec les mains croisées parce que ça me rappelle tellement de souvenirs d'une autre vie, dans un autre temps. Mais, voilà, peu importe. Mais c'est le symbole. C'est le symbole. Les deux sont un symbole, le poing et les mains croisées, naturellement. Est-ce que nous allons trouver des réponses? Alors, on va se livrer à une petite question-réponse maintenant, si vous voulez. Et si Dieu répondait à notre comportement devant l'incompréhensible, devant ce qui, quelque part, nous agace, nous énerve, nous révolte, nous met hors de nous-mêmes. Si Dieu nous répondait, devinez. Que dirait-il pour nous plaire ou nous déplaire? Ah! Qu'est-ce que Dieu ferait à ce moment-là? Qu'est-ce que nous attendrions? Mais oui, tu es un bon garçon, une bonne petite fille, c'est formidable. Ouais. Ou alors peut-être pourrait-il nous dire, et sans légalisme aucun, mon ami, tu as mal? Mais ce qui se passe? Mon ami, tu as mal? Mais une chose, c'est que tu t'es mis toi-même dans une situation, et c'est dommage. Si Dieu répondait sur l'origine de nos maux et de nos malheurs, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait, mais écoute, regarde derrière toi le chemin que tu as tracé. Il y a des marques de tes pieds ici ou là. Est-ce que tu n'as pas compris à un moment ou à un autre que finalement tu sortais du cadre, tu perdais ton bonheur, tu perdais ta paix et ta joie? Peut-être. Si Dieu répondait pour nous ouvrir spontanément nos yeux et nos cœurs, et vous avez remarqué que Dieu ne nous révèle pas les choses d'une manière assez brutalement. Non, c'est aussi un apprentissage, c'est aussi une marche pour apprendre par là où nous sommes passés et nous montrer que par l'expérience que nous en faisons, et souvent par la douleur, eh bien que nous devons revenir finalement eh bien vers lui, si Dieu nous répondait. Si quelque part, eh bien, il ouvrait notre cœur et que nous voyions à l'intérieur de nous-mêmes les choix que nous avons faits, et des choix volontaires et délibérés, qui aujourd'hui sont des sources d'amertume, naturellement. Si Dieu répondait, pourrions-nous affronter ce qu'il a à nous dire? Alors, dans tout cela, qu'est-ce que nous ferions? Si Dieu répondait ainsi, est-ce que nous serions encore capables de le croire? Vous savez, dans nos réunions, il y a des paroles qui passent comme ça. Dans nos réunions, il y a l'enseignement de la Bible. Il y a des dons spirituels. Mais quelquefois, si Dieu répondait, est-ce que nous serions en mesure de le croire et d'y porter attention? Et c'est bien ce qui s'est passé en ce qui concerne le peuple d'Israël. Parce que des prophètes, il en a défilé quelques-uns. Hein. C'est pas quelques-uns, c'est des dizaines, voire même de centaines. Ils sont peut-être pas tous nommés. Mais Dieu a véritablement mis ce qu'il fallait, hein, pour avertir le peuple. Et ça, c'était pas sur quelques jours, pas quelques années, c'était sur des siècles. Et si Dieu nous questionnait à son tour? Parce que c'est nous qui posons des questions à Dieu, mais si c'était lui qui nous posait des questions, qu'est-ce qu'il dirait? Tu m'as irrité. Et on le relit, si vous voulez. Il est dit tout simplement, pourquoi m'ont-ils irrité par leur image taillée, par leur idole étrangère? On pourrait peut-être apprendre que Dieu est fâché. Oui. Que Dieu est fâché, que l'homme se fasse du mal à lui-même. Parce que le problème, que quand nous péchons, et quand nous forçons les barrières, lorsque nous passons des murs, lorsque nous traversons des portes qui sont fermées, et que nous passons par la fenêtre, à qui faisons-nous du mal? Est-ce que c'est à Dieu ou à nous-mêmes? Dieu est au ciel. Mais nous nous faisons du mal à nous-mêmes, et peut-être gravissime, c'est que quand nous nous faisons du mal à nous-mêmes, nous faisons du mal aux autres. Ça, c'est certain. Oui, nous faisons du mal aux autres, à commencer par notre famille. Quand quelqu'un est parti en dérive, il y a des conséquences de tout ça. Ça, c'est inévitable. Pourquoi m'ont-ils irrité? Et parce que je l'ignorais. Parce que je me suis endurci, et parce que j'ai été incrédule, tout simplement. Irrité par les images taillées, nous dit le texte, par des idoles étrangères. Alors, on n'en est plus au point, comme dans l'Antiquité, où on a nos divinités dans nos maisons, hein, nos pénates, enfin tout ce que vous voulez, qui était vraiment le symbole des cultes anciens, des cultes d'autrefois. Mais aujourd'hui, nos maisons sont pleines d'idoles. Et si avec nos maisons, nos cœurs, nos vies, avec tout ce que cela peut comporter. Ah oui. Vous savez, le monde, nous dit l'apôtre Jean, gît dans le malin. Alors c'était hier, hein, il a écrit ça il y a à peu près 2000 ans. Hein. Mais aujourd'hui, on pourrait dire que de toute façon, ça s'est pas arrangé la situation. Et je pense qu'il y a cette pénétration tellement insidieuse, même dans les milieux chrétiens, même au niveau de nos vies, au niveau des églises, ça ne se voit pas, c'est pas brutal, mais c'est instillé doucement, tranquillement, et on n'y prend même pas garde. C'est ça le problème. Par leurs images taillées et leurs idoles étrangères. Voilà la cause des tourments. Le monde va mal. L'église est malade. Ouais. On peut le constater. En raison de l'ignorance. Parce que le monde ne sait pas et ne veut pas savoir. Gravissime quand il s'agit d'une église qui ne sait plus et qui ne veut pas ou qui ne veut plus savoir. Et ça, il y a une responsabilité pour les pasteurs, parce que quand on arrive à ne plus vouloir prêcher la parole de Dieu, qui est la substance, la nourriture essentielle pour nos âmes, alors à ce moment-là, on va droit au mur, hein. L'église va s'appauvrir. Paul le disait, mais on n'a pu que vous donner du lait. Alors qu'il vous aurait fallu maintenant de la nourriture solide. Eh oui, mais quand on n'a plus faim, on n'a plus faim. Et les gens qui n'ont plus faim, c'est qu'ils vont tomber en anémie, ou ils sont déjà en anémie. Et une église qui est en anémie, c'est une église qui va pas aller loin. Hein. Elle va finir sous perfusion à un moment donné. Hein. On peut toujours le mettre à toutes les applications. Hein. Voilà la cause des tourments. En raison de l'endurcissement, parce que les hommes persistent dans des voies d'erreur qui aboutissent à des faillites. Et faut-il arriver à une faillite pour dire ça n'a pas marché? Quand on peut s'arrêter avant? Quand on crie? Moi, ça m'est arrivé de crier ça à des gens, à des jeunes aussi. Je leur ai dit, casse-cou! Eh oui. Mais ils ont foncé, hein. Eh, ils ont foncé. Eh bien, ce qui était prévisible est arrivé, tout simplement. Et on les a retrouvés avec des bosses, avec des ecchymoses et des contusions de tous les côtés. Et après, pour se guérir, ça fait mal, quand on n'a pas quelque chose de cassé et qui ne se répare pas. L'ignorance, l'endurcissement et l'incrédulité. Comment se fait-il que nous avons commencé par la foi et que nous finissons par le scepticisme, par le doute et l'incrédulité? Quand même curieux. Et les Galates, ils étaient un peu dans ce cas-là. Oh, le digne chrétien Galate vous dira, mais moi j'ai jamais abandonné Dieu. Non, ça c'est sûr qu'ils n'ont pas abandonné le mot de Dieu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais ne faites pas et n'obéissez pas à ma parole? Parce qu'on peut avoir toujours le mot de Dieu dans la bouche. Mais c'est la question, c'est pas de l'avoir dans la bouche, c'est de l'avoir dans le cœur et dans la vie. Ça change les choses. Hein. Alors l'incrédulité, parce que on refuse d'ajouter foi à ce que depuis toujours Dieu nous dit être la vérité, et la vérité de Dieu, c'est sa parole. Moi, vous allez peut-être me supporter encore pendant une quarantaine d'années, je dis ça, mais en tous les cas, une chose que Dieu m'a demandé, c'est de prêcher la parole de Dieu. Et tant que je serai là, vous entendrez la parole de Dieu. Enfin, le message de la prédication, en tous les cas. Parce que je vous dirai, je ne sais pas quoi faire d'autre. Donnez-moi d'être au piano, de la musique, etc. Alors là, c'est la catastrophe, vaut mieux que vous partiez tout de suite, hein. Non. Mais par contre, Dieu m'a mis à cœur de prêcher la parole de Dieu. Le message de Jésus-Christ, et pas n'importe quelle parole de Dieu. Pas une parole légaliste qui étreint, qui rétrécit finalement, qui complètement absorbe la responsabilité individuelle, mais une parole de grâce qui libère et qui donne la vie aux gens. C'est ça. Et ça, c'était le message de l'apôtre Paul. Alors, quand je parle de la grâce, je me fâche. Hein. Non. Mais non, ça virait pas ensemble, naturellement. Voilà. Les choses sont ainsi. Tout ce qui n'est pas Dieu, tout ce que Dieu ne révèle pas, tout ce que ne révèle pas l'Écriture, qui n'est pas cru, ni même obéi, eh bien, est une idole étrangère. Je dis bien une idole étrangère. Source de confusion, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Les trois premiers des 10 commandements. Si tu observes mes commandements, nous rappelle Dieu, je bénirai ton eau, je bénirai ton pain. Voilà. Ça, c'est une source de bénédiction. Mais le Seigneur est ainsi. Que d'idoles modernes qui remplacent la foi que nous devons avoir en Dieu seul et dans sa parole. Oui. Aujourd'hui, c'est assez effrayant de voir tout ce qui peut passer de tous les côtés, hein, tout ce qui voltige de tous les côtés, et de voir les chrétiens qui, quelque part, connaissent la parole de Dieu et sont pris d'engouement ou de fascination pour toutes sortes de choses qui ont, eh bien là, une connotation de modernité. C'est pas d'être moderne ou ancien, c'est pas ça. Faut savoir si vraiment il y a l'esprit ou il n'y en a pas, si véritablement l'esprit de Dieu est dedans. Et malheureusement, la prolifération de toute cette confusion qu'il y a autour de nous, eh bien, ça vient de cela. Parce qu'on finit très vite par la superstition, même chez les chrétiens évangéliques, oui. Ouais. On finit très vite dans un état d'esprit religieux, et on finit aussi dans l'athéisme. Voilà, ce sont les conséquences. Et le monde irait bien avec tout ça. Alors, on a du mal à lui souhaiter bonne route, hein. Comme le fils prodigue qui a pris la route. On pouvait pas lui dire, mais écoute, hein, sois heureux, parce qu'on savait très bien qu'il allait arriver des choses. La moisson est passée, nous dit le texte, l'été est fini, et constatation, nous ne sommes pas sauvés. Ils attendaient peut-être pendant la belle saison, avec la chaleur, avec tout ce qu'il peut y avoir d'agréable, de vivre et de vie dans l'été. Et puis, la moisson, nous attendions quelque chose de une bénédiction, et il n'y a rien eu. Et ils le disent, les Israélites, mais nous ne sommes pas sauvés. Espoir trompeur, où l'homme fait de lui-même le centre de toute sa confiance. Jésus nous le dit, et c'est peut-être un lieu commun que je rappelle, mais Jésus nous dit, mes frères et sœurs, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alors pourquoi aller chercher ailleurs? C'est clair. C'est clair. Quels sont les fruits de l'illusion? Les fruits de nos divagations intellectuelles, cérébrales et théologiques, tout ce que vous voulez. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Ah oui. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Chapitre 17 de Jérémie encore. Ah oui. Il est comme un arbre planté auprès des eaux, il est toujours vert. Hein. Et il porte son fruit en sa saison. Mais c'est ça ce que nous devons produire. Et c'est ainsi que nous gagnerons le monde. C'est ainsi que nous attirerons le cœur et les yeux. Et peut-être là, eh bien, ce que les gens ont besoin de voir dans l'Église. Soyons le sel de la terre et non pas des repoussoirs. Non pas des rébarbatifs. Non, ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils n'en veulent plus. Et peut-être qu'ils ont raison de ne pas en vouloir. Parce que le Seigneur qui remplit notre vie, c'est un Dieu de vie. C'est un Dieu qui, eh bien, communique quelque chose pour donner la vie. Alors, cet espoir des fausses idoles, de toutes sortes de choses, c'est un espoir naturel qui finit toujours par s'estomper parce que l'été va passer, les moissons vont passer, il n'y aura rien. Et qui laisse le cœur vide, déçu, dans un amer désenchantement. Faut-il avoir été au bout de nos illusions pour en arriver à dire « nous ne sommes pas sauvés ». Je ne parle pas pour les chrétiens, ou les chrétiens qui rétrogradent peut-être, mais nous ne sommes pas sauvés. En douter de notre salut à un moment donné. Je parlais avec quelqu'un dernièrement qui a connu ces réunions, qui a connu, parce qu'il était au milieu de nous, je l'ai rencontré, je parlais avec lui. Il était dans le désespoir. Nous avons un bon rapport avec lui. Et il en arrivait à tomber dans d'affreux doutes en disant « je ne sais plus si je suis sauvé, je suis perdu ». Voilà. Il était à deux doigts de basculer. Est-ce que je veux dire ? Alors, le mot, c'est « reviens ». Je n'ai pas dit où il devait revenir. Mais moi, dans ma pensée, mais il a compris ce que ça voulait dire. C'est pas forcément de revenir à l'Église, bien que ça peut lui faire du bien. Mais reviens vers le Seigneur. Parce que c'est lui qui pourra te faire revenir dans l'Église et qui pourra te faire... Il te conduira où il voudra, d'abord. Parce que moi, j'ai pas l'esprit de clocher et de chapelle. Ce qui est important, c'est qu'il revienne à Jésus. Ça, c'est l'essentiel. Je finis bientôt. Ça vous fait sourire. Mais est-ce que j'ai commencé finalement ? Voilà, nous ne sommes pas sauvés pour désirer une vraie solution. Cherchez le vrai sauveur. Cherchez Jésus, c'est lui qui doit être devant nous. Le prophète Jérémie reprend et il revient sur le sujet de sa grande détresse. Par la douleur, dans la tristesse, dira-t-il, sauvons-nous, nous, de la prière de Jésus. En contemplant Jérusalem, ah, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit des choses extraordinaires. Jésus, quand il parle de Jérusalem, écoutez en substance. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins ? Hein, c'est très touchant. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est une décision de notre volonté. Dans Luc chapitre 19, le même texte avec une petite variante. « Comme Jésus approchait de la ville, en la voyant, il pleura sur elle et dit, « Si toi aussi en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Moi je dis, mes frères et sœurs, l'instant peut-être qui est là, c'est l'instant que Dieu nous donne, l'instant propice, l'instant favorable. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Une décision tout à nouveau, un engagement, lâcher quelque chose, c'est peut-être l'instant, mais tu n'as pas connu le temps où tu étais visité. Le Seigneur nous appelle. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, ne résistez pas, ne fermez pas votre cœur. Au contraire, approchez-vous de lui. Le drame qui se jouait à Jérusalem dans les pleurs de Jésus est semblable aujourd'hui. Cette incrédulité forcenée des hommes, ce défi de Dieu en le provoquant, défi permanent de Dieu, on le voit autour de nous, hein, à travers l'effondrement de l'éthique, de la vie dans notre société. Oui. Alors c'est aussi la même chose, cette incrédulité forcenée, cette obstination des hommes à ne pas vouloir croire, qui est la cause de tout et qui est la source de tous les malheurs du monde. Alors on va se pencher sur tous les problèmes, il y a la guerre ici, il y a des attentats là, il y a toutes sortes de choses, les catastrophes naturelles, mais on ne va pas à la racine, on ne va pas chercher les raisons. Alors on n'a pas fini de chercher, on n'a pas fini de faire n'importe quoi. Cette obstination à ne pas vouloir que penser que c'est Dieu qui est le cœur et la solution de tout ça. Et pourtant les conséquences sont tellement évidentes. Si tu reviens vers moi, nous dit Dieu, et il s'adresse aussi au monde et aux églises, combien de fois Jésus pouvait dire à juste raison, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ton bonheur, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Aveuglement, maladie. Ouais, maladie chronique. Quelqu'un a dit que le plus grand des malheurs n'est pas d'être pécheur. C'est un malheur à l'origine, ça c'est sûr. Mais c'est de refuser de reconnaître son péché. Ça c'est le plus grand malheur. Quand on est atteint d'une maladie, on se fait soigner, sur le plan de la vie, naturellement. Eh bien, quand on sait qu'il y a quelque chose dans notre vie qui ne va pas, alors on vient vers le Seigneur. Et c'est lui qui est capable de nous sauver. Pour ce genre de mal qui touche le corps, l'âme et l'esprit, il n'existe aucun baume, parce qu'on l'a lu dans notre texte, hein. Il n'y a pas de baume en Galate. Il n'y a point de médecin. Y aurait-il point de médecin? Alors, c'est clair que dans tout ça, on est atteint dans les trois dimensions de notre existence. Et cette humanité perdue et souffrante doit s'interroger sur l'inefficacité des moyens pour vaincre sans Dieu. Parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Dieu, on n'a pas d'issue. Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Alors, en conclusion, il faut attendre la venue de Jésus. Mais il est là. Parce que si vous l'attendez, il est déjà là. C'est lui qui vous attend. Et puis, entendre cette bonne nouvelle, comme je pense ces mots peuvent porter d'une bonne nouvelle et un espoir. Et à travers cette disposition de cœur, le Seigneur va faire renaître à l'intérieur de nous-mêmes eh bien quelque chose de nouveau, comme au jour où nous l'avons rencontré, vous savez, au moment où nous sommes convertis. Ouais, si nous l'avons abandonné. Puis moi, ce qui est extraordinaire, c'est quand je vois des hommes et femmes, des jeunes gens et des jeunes filles, ou même des vieillards qui viennent dans nos réunions, et qui sont en train, peut-être après une vie de tumulte, une vie où ils ont été miséreux et misérables, découvrir la grâce du Seigneur. C'est formidable. Le plus beau jour de ma vie, pour moi, c'est lorsque, véritablement, j'ai découvert Jésus. Extraordinaire. Ah oui, c'est pas d'aujourd'hui, mais néanmoins, je le garde au fond de mon cœur. Et c'était merveilleux. Qu'est-ce que je dis? C'est merveilleux. C'est merveilleux, naturellement. Alors, pour tous ceux qui sont pauvres et qui se sentent dans l'indigence et qui souffrent, venez à moi, parce que vous êtes pauvres. Vous pouvez pas vous défendre vous-même. Vous qui avez le cœur brisé, eh bien, tous ces laissés pour compte de l'existence, de l'affection, les solitaires, les abandonnés de la vie, ceux que on ne regarde plus, auxquels on ne parle plus. Jésus nous dit, mais c'est pour vous les cœurs brisés, je suis venu pour vous. Hein. Et puis, les captifs, ceux qui sont en train de vouloir faire éclater les chaînes et les liens qui les retiennent, dans les chemins du péché, dans les chemins de la mort peut-être, les liens de la culpabilité, la dictature de la pensée, des sentiments et des sens. Eh bien, le Seigneur a dit que c'était pour eux aussi, les captifs, pour leur donner la liberté. Pour ceux qui sont aveugles, ou désorientés dans un monde de confusion morale et dans tout le reste, eh bien, il rend la vue, bien sûr. Les opprimés, eh bien, il met devant eux une loi de liberté, je dis bien une loi de liberté. Les victimes et les abusés, par les fausses spiritualités, ceux qui sont esclaves de la superstition, de l'occultisme, eh bien, il nous dit, mais moi, je vous donne, derrière votre oppression et à la place de votre oppression, je vous donne la liberté et publiez une année de grâce. C'est-à-dire que nous avons annoncé ce matin, comme dans un message d'évangélisation, le salut, la guérison et le salut, ou le salut et la guérison. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce, si vous voulez bien. Nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier parce que tu es vivant, tu es fidèle, Seigneur. Et je veux te rendre grâce parce que, en effet, eh bien, comme l'apôtre Paul le disait hier, l'amour de Christ me presse. Moi, je te demande, Seigneur, de répandre, en effet, un esprit de prière et de supplication sur ton peuple, afin que tu trouves un homme, une femme, des hommes, des femmes dans ton église, qui se tiennent à la brèche, et qu'ils prient, Seigneur, véritablement, qui intercèdent en faveur du pays. Alors, c'est vrai que ça, c'est notre grande mission extérieure. Mais déjà dans nos familles, déjà dans nos couples, peut-être auprès de nos enfants, qui ont tourné le dos à Dieu, Seigneur, c'est aussi notre mission. Et je te rends grâce et je te remercie. Parce que nous savons, Seigneur, qu'en effet le prophète nous montre un exemple. Eh bien un croyant d'hier, un croyant d'un autre temps, mais Seigneur, dont le cœur brûlait à l'intérieur de lui-même. Et nous savons, Seigneur, que la seule remède, la seule, en effet, solution, c'est véritablement de revenir à ta parole, de prendre ta parole et de la garder, de la serrer dans notre cœur. C'est cela, Seigneur. Il envoya sa parole et il les guérit, nous dit la Bible. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.